Un septième Premier ministre en même pas une décennie pour le Royaume-Uni. Son nom, Andy Burnham. Il est membre du Parti travailliste, comme son prédécesseur, mais il promet toutefois la rupture avec une politique sociale et une gouvernance décentralisée, une ambition aussi, le retour à la stabilité. Mais a-t-il les moyens de ce programme ? Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une spécialiste du Royaume-Uni, Pauline Schnapper, enseignante à la Sorbonne Nouvelle. Je l'interroge. Andy Burnham peut-il vraiment promettre une révolution ? Que peut-il réaliser ? Que ses prédécesseurs ont échoué à faire. Enfin, que dire de son style ? Populaire, naturel, c'est indéniable, mais est-ce de la com ou un vrai atout politique dans sa main ? Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Derrière Andy Burnham, il y a une porte. Ce lundi 30 juillet, il se tient debout devant la fameuse porte vernie de noir du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre britannique.
Je viens tout juste de quitter le palais de Buckingham où j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté à former un gouvernement. En faisant cela, j'ai pleinement conscience d'être la sixième personne en 10 ans à remonter cette rue. Le septième Premier ministre depuis 2016, ce qui fait de cet instant un moment de réflexion et de nouvelle détermination. Il exige de ma génération de responsables politiques qu'elle élève son niveau, qu'elle se hisse à la hauteur du nouveau défi.
Ce discours inaugural, Andy Burnham le prononce donc debout, mais surtout sans pupitre et sans notes. C'est le style de cet homme de 56 ans, habitué à arborer un style décontracté. Il est parfois en t-shirt, là, il a mis le costume. Mais c'est tout de même une façon de mettre en avant ses racines populaires, d'homme du Nord. Norse, prononcé avec son accent du Nord, car c'est de là que vient Andy Burnham. Le roi du Nord, c'est son surnom. En 2017, il conquiert la mairie du Grand Manchester, agglomération de 3 millions d'habitants tout de même, où il arrive à se faire réélire à 2 reprises. Andy Burnham est issu du parti travailliste. Comme son prédécesseur, qu'il vient de remplacer, Keir Starmer, le parti tangue, mais se maintient au pouvoir, comme le parti libéral lorsqu'il était à sa place juste avant. La preuve en 10 ans, Andy Burnham est déjà le 7e Premier ministre, alors il arrive avec une ambition.
Le Royaume-Uni doit montrer au monde entier que nous sommes capables de retrouver notre stabilité. Et c'est là notre défi, faire en sorte que la politique fonctionne et qu'elle fonctionne mieux. Je sais que nos concitoyens en ont assez de la politique. Je vous comprends et je veux être honnête avec vous. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous devons faire mieux.
Andy Burnham est donc membre du Parti travailliste, au sein duquel il est plutôt classé à gauche. Et ça s'est entendu dans son premier discours. La politique, il la veut plus collaborative. Le pouvoir, distribué partout dans le pays. Quant aux services essentiels, ils doivent être sous plus grand contrôle public. Mais surtout, il y a le pouvoir d'achat. Andy Burnham veut apporter du répit aux Britanniques, à leur première mesure, suppression de la TVA pour l'électricité dès le mois d'octobre. De quoi faire économiser environ 45 livres par an à chaque ménage d'après ses prévisions, mais il s'est également fixé une ambition.
Je vais bientôt franchir la porte qui se trouve derrière moi et donner ma première instruction. Mettre fin au sans-abrisme dans notre pays. Il s'agit de remettre les bonnes valeurs et les bonnes exigences au cœur de l'action gouvernementale.
Cette promesse, c'est l'occasion d'évaluer Andy Burnham au prisme de ses anciens engagements. Car le zéro sans-abri, il l'avait déjà dit pour Manchester, lors de sa première élection comme maire en 2017. Objectif prioritaire d'alors, loger tous ceux qui ne disposent pas d'un toit d'ici à 2020, avec son plan « A bed every night », un lit chaque nuit. Mais voilà, il n'y est pas parvenu, faute de logements sociaux. Le nombre de personnes sans-abri a certes diminué au début des années 2020, avant de revenir à son plus plus haut cette année, à en croire les associations locales. Son principal succès reste en fait d'avoir repris le contrôle du réseau de bus, fragmenté, géré par des opérateurs privés, qu'il a remis entre les mains du public. Son autre combat, c'est la décentralisation. Une partie des équipes du 10 Downing Street sera en effet installée dans le nord de l'Angleterre, nom de code, 10 North.
Écoutez bien, le 10 North sera le centre névralgique d'une Grande-Bretagne entièrement repensée.
Ça sonne bien. Il faut dire qu'Andy Burnham est un bon communicant. Sur ses réseaux sociaux, il montre les coulisses de ses campagnes, dialogue avec les usagers, souvent jeunes, de la plateforme Reddit, ou répond à un podcast sportif. Pour parler foot, pas de Monsieur Burnham qui tient.
Andy, quelle serait ton équipe de rêve pour un match à 5?
Eh bien, je serais sans doute en attaque. Peut-être Wayne Rooney juste derrière moi. Peter Reid derrière moi. Pas d'autre choix que Neville Southall, le grand Neville Southall dans les buts. Trevor Stephen à droite.
En fait, Andy Burnham avait déjà tenté par deux fois de prendre la tête de son parti et donc d'accéder au poste de Premier ministre. En 2010, face à Ed Miliband, et en 2015, face à Jeremy Corbyn, plus à gauche que lui. Mais en vain, tout s'est en fait accéléré avec l'annonce de la démission de Keir Starmer au mois de juin. Arrivé au pouvoir après une large victoire électorale en 2024, il s'en va finalement sur une série de défaites locales pour son parti. C'est là qu'Andy Burnham s'engouffre dans la brèche.
The word Makerfield in the future must be known as a byword for the change that came to British politics. This is the moment. We've been on a path for 40 years that simply hasn't worked.
Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Andy Burnham avait annoncé le plus grand changement dans la politique britannique en 40 ans. Est-ce que, après ses premières annonces, ça sent la révolution?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, mais a priori, non, ça ne sent pas la révolution. En revanche, on voit bien quand même quelques inflexions par rapport à ce que Keir Starmer avait tenté de faire pendant les deux dernières années, avec, disons, une vision peut-être un peu plus élaborée, un peu plus précise de ce qu'il veut faire en matière de politique intérieure, notamment de politique économique et sociale. Et là, peut-être le gros changement par rapport au gouvernement précédent, c'est l'accent qui est mis sur la régionalisation de l'Angleterre, sur ce qu'on appelle la dévolution de pouvoir à des autorités locales en Angleterre pour leur donner davantage d'autonomie.
Ce qu'on appellerait en France la décentralisation.
Oui, un type de décentralisation, c'est-à-dire où en effet les autorités locales, donc les municipalités ou les régions, auraient davantage de marge de manœuvre budgétaire notamment pour accélérer le développement économique dans leur région. Il faut bien garder en tête que le Royaume-Uni est un pays pour l'instant extrêmement centralisé, où tout se joue à Londres et où les autorités locales ont pour l'instant très peu de marge de manœuvre.
Sur le social, justement, on a entendu ces annonces avec la fin de la TVA sur l'électricité. C'est un petit peu à rebours de ce qu'avait fait Keir Starmer, qui lui, au contraire, avait mis fin au chèque énergie, donc à des aides pour les plus pauvres. Il est vraiment en rupture totale de ce point de vue-là avec son prédécesseur.
Alors, ce n'est pas tout à fait que Keir Starmer ne le faisait pas, mais il avait mis, c'est vrai, l'accent sur peut-être d'autres dimensions du problème de ce qu'on appelle au Royaume-Uni de cost of living, hein, donc le coût de la vie. C'est vrai que il y a une forte attente de la population britannique pour faire baisser en effet les factures, pour donner de la marge de manœuvre financière à cette population. Et donc, pour l'instant, alors cette baisse de la TVA de 5% à 0 sur l'électricité, c'est évidemment plus symbolique qu'autre chose, hein. Ça ne va pas changer fondamentalement le contenu du portefeuille des Britanniques, mais c'est un signal qui leur est donné.
Mais symboliquement, c'est quand même un vrai virage, parce que Keir Starmer, lui, avait plutôt mis fin au chèque énergie en vigueur en Grande-Bretagne. Là, c'est plutôt la direction inverse.
Oui et non, parce qu'il avait en effet mis fin à ce chèque énergie pour les personnes âgées en particulier, mais il était aussi revenu, sous la pression de ses propres troupes, il est vrai, sur des plafonds d'aide financière aux personnes qui avaient plus de deux enfants chez elles. Donc, c'est des choses, si vous voulez, qui avaient été faites. Le problème et les limites de ce que pouvait faire Keir Starmer et de ce que pourra faire d'ailleurs Andy Burnham, c'est le manque de moyens financiers, c'est-à-dire que la situation budgétaire britannique, tout comme la situation française, est extrêmement compliquée. Hein. Les marges de manœuvre budgétaires sont très très réduites. Il y a déjà un très fort déficit public. Et donc la question, c'est où trouver l'argent pour financer ces politiques sociales qui sont très attendues, en effet, de la population. De ce point de vue-là, si vous voulez, les deux premiers ministres sont confrontés aux mêmes contraintes financières.
Donc lorsqu'Andy Burnham semble s'afficher comme plus à gauche que son prédécesseur, il y a peut-être une volonté, mais il n'y a pas forcément les moyens de l'être.
Oui, c'est important pour lui de manifester, de donner cette image, parce que c'est quelque chose qui était, encore une fois, très, très attendu. Mais cette volonté va se heurter à des contraintes budgétaires qui, elles, n'ont pas changé avec le changement de gouvernement.
En tout cas, on sent quand même qu'il veut prendre en main des questions de politique intérieure. Vous l'avez dit au début de notre conversation, un Premier ministre qui joue peut-être plus à domicile que Keir Starmer ne le faisait en se mettant lui davantage en scène à des sommets de l'OTAN ou à des entretiens avec d'autres chefs d'État ou de gouvernement à l'étranger. Les Britanniques avaient besoin d'un Premier ministre qui se ressente sur leurs problématiques, ça c'était important.
Oui, là encore, il faut en tout cas donner cette image-là. C'est vrai que Keir Starmer avait été beaucoup happé par les crises internationales et Andy Burnham joue la carte de la proximité avec la population britannique. Encore une fois, c'est beaucoup une question d'image parce que la réalité, là encore, va la rattraper. C'est-à-dire qu'un Premier ministre britannique, même s'il souhaite être plus centré sur la politique intérieure et très vite forcé par les circonstances, bien sûr, par les crises, par les sommets, par les guerres que nous connaissons autour de l'Europe, de s'occuper beaucoup de politique étrangère. Donc, ce qui est vrai, c'est que Andy Burnham a peu d'expérience et peu d'intérêt a priori pour la politique étrangère, mais la politique étrangère le rattrapera assez vite. Et donc, tout l'enjeu pour lui sera d'arriver à continuer à donner cette impression de faire des choses pour en interne, sans pour autant négliger évidemment ce qui se passe dans le reste du monde.
Vous parlez beaucoup de l'image qu'il se donne, de questions de communication. Est-ce qu'il réussit vraiment à être un homme politique populaire? En tout cas, c'est ce qu'il veut être. Ou est-ce qu'il flirte avec le populisme ou c'est autre chose quand même?
Ah non, pour l'instant, il n'y a pas de signe de populisme. Mais il prend le contre-pied de Keir Starmer, dont la grande faiblesse, c'était ce manque de vision et de charisme. Donc Andy Burnham, de ce point de vue-là, part avec un a priori plus favorable. Il est meilleur communicant, il a une vision assez claire de ce qu'il veut faire, qu'il est capable de communiquer donc à la population.
Ça compte ça pour se maintenir au pouvoir sur le long terme?
Oui, bien sûr. C'est toujours important. Alors c'est important en tout cas au début. Il y a un moment où il faut que la réalité rattrape le discours, bien entendu. Mais là, il est beaucoup trop tôt pour porter un jugement sur ce qu'il va réussir ou pas à faire. En tout cas, il marque sa différence avec son prédécesseur, ça c'est clair.
Mais le défi, c'est de durer, parce qu'on le disait dans le récit, il est déjà le 7e Premier ministre du Royaume-Uni en 10 ans. Comment est-ce qu'il peut donner une nouvelle chance au Labour, au Parti travailliste? Pourquoi est-ce qu'il pourrait réussir à se maintenir là où Keir Starmer et même là où ses prédécesseurs libéraux ont échoué?
Alors là, il y a très peu de chances qu'ils ne tiennent pas jusqu'aux prochaines élections, qui seront au plus tard en 2029. Il a une très forte majorité au Parlement, comme l'avait d'ailleurs Starmer, mais il est vraiment à prévoir maintenant que le Parti travailliste ne prendra pas le risque de changer encore une fois de leader d'ici les prochaines élections.
Mais un Premier ministre britannique qui dure 3 ans, c'est déjà une gageure vu ce qui s'est passé ces dernières années depuis le Brexit, en fait. Le pays est totalement ingouvernable.
Non, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Le pays était ingouvernable jusqu'en 2024, si on peut dire, parce qu'il n'y avait pas une majorité claire jusqu'en 2019 et qu'ensuite Boris Johnson avait provoqué beaucoup de dégâts et avait perdu toute légitimité. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2019 ou même 2024.
2024, en gros, le retour des travaillistes au pouvoir avec Keir Starmer.
Voilà. Andy Burnham, aujourd'hui, bénéficie du soutien de la très grande majorité du Parti travailliste, qui a une majorité absolue très large au Parlement. Alors certes, il y a la menace de Nigel Farage et de son parti Reform, mais d'abord, il semble qu'il ait plutôt atteint un pic, voire que peut-être Reform baisse un peu dans les sondages à l'avenir, donc ça sera à voir. Et on peut tout à fait imaginer maintenant que le gouvernement Burnham bénéficie, en tout cas, oui, de ces 2-3 ans devant lui pour essayer de faire remonter le Parti travailliste dans les sondages. Et ça ne pourrait être fait que s'il obtient des résultats, notamment des résultats économiques et sociaux.
Vous parlez, Pauline Schnapper, de Nigel Farage, le patron du parti Reform UK, ce parti populiste. Nigel Farage, qui a été pris dans des affaires de corruption, a décidé de remettre en jeu son siège d'élu pour confier sa légitimité au peuple plutôt qu'à la justice. Il a fait ses preuves, Andy Burnham, face à ce parti-là au niveau local. Il pourrait le faire au niveau national ?
C'est toute la question. Andy Burnham a en effet réussi à battre assez facilement finalement le candidat du parti de Nigel Farage Reform, donc dans cette circonscription de la banlieue de Manchester. Donc évidemment l'espoir des travaillistes, c'est que il arrive à atteindre le même résultat au niveau national et pas simplement dans une circonscription. Et là, encore une fois, tout va dépendre de ce qu'il arrive à faire au niveau national. Encore une fois, il part avec un a priori favorable. Et en tout cas, les députés de son parti espèrent bien, pensent en tout cas qu'il est le seul à avoir une chance de faire baisser le parti de Farage.
Merci Pauline Schnapper d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous en prie.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Obeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.